Les prisons apparaissent comme le domaine régalien de l'État. Pourtant, on voit des ONG, des associations qui interviennent, non, pour leurs réformes.
En effet, ça peut paraître surprenant parce que l'univers carcéral est difficile d'accès. Il faut demander des autorisations pour y rentrer et elles sont parfois refusées pour des raisons de sécurité ou parce que les autorités ne veulent pas qu'on observe la manière dont elles exercent le pouvoir. Et pourtant, depuis longtemps, les associations de défense des droits de l'homme se sont intéressées à la prison parce que c'est le lieu où se produisent de nombreuses violations des droits fondamentaux et aussi où sont enfermées les personnes réprimées par l'État. Et donc, ces associations peuvent être des lanceurs d'alerte et amener à déclencher des réformes concernant la prison.
D'accord. Tu aurais des exemples ?
Oui, de nombreuses associations vont produire des rapports publics sur des violations dans tel type d'établissement, dans telle région reculée ou concernant telle catégorie de population. Et plus largement, parfois, produire des analyses, des dysfonctionnements de la justice qui amènent à questionner l'univers carcéral, le système pénitentiaire. Ces associations, parfois, fonctionnent en réseaux transnationaux, comme Amnesty International ou la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Et ces réseaux permettent de faire de la prison un problème et aussi un secteur d'intervention pour améliorer les conditions de détention ou, par exemple, pour changer une pénalité trop répressive.
D'accord, mais alors dans ce cas-là, elles s'opposent à l'État ?
Dans une certaine mesure, oui, parce qu'elles ont un discours critique sur les pratiques de l'État, mais aussi, elles peuvent être des partenaires de l'État pour l'amener à réformer ses pratiques et les mettre en conformité avec ses propres lois. C'est le cas, par exemple, de Prison Reform International, de Prisonniers sans frontières, ou également de Just Detention International, qui intervient en Afrique du Sud. Et on va maintenant écouter Sacha Djir, qui travaille dans cette organisation, et qui va nous expliquer comment son ONG a été amenée à intervenir dans ce pays d'Afrique, dans les prisons de ce pays d'Afrique, qui est celui qui incarcère le plus.
Ok, allons-y.
During apartheid, prisons were one of the key institutions of suppression of black people, a key part of the apparatus of the state. And with the coming of democracy and the end of apartheid, it became essential to everybody that we transform the nature of our prisons. So in all sorts of ways, some of the most discriminatory laws against black people, for example, were done away with, and those things were seen as very, very positive and were important, and our policy is very progressive in certain ways. But in other ways, the reality that prisoners continue to face behind bars is absolutely appalling. So we have a situation where, counter to what our dreams were post-apartheid, we are still confronted with a very, very damaging prison system. But what also happened post-apartheid was there was a real opening up to civil society. So civil society organizations were very involved in the development of the legislation, of the new policies. But what happened was in the early 2000s, there were three officials who were working in the awaiting trial section at Polsmoor Prison in Cape Town, which is one of our biggest and most notorious prisons for violence. And these officials were very disturbed by the levels of sexual violence that they were seeing. And they started to do research to try and find out if there were other organizations that might be able to assist them in starting to address sexual violence. So they did a Google search and they found our mother organization, which at the time was known as Stop Prisoner Rape, now known as Just Detention International. And they invited them to come over to South Africa and to look at the problem here and to see how they might be able to assist in dealing with the problem in South Africa. What happened around that time was that there was a very open and progressive commissioner of correctional services, and he also was very concerned about the problem of sexual violence and invited JDI together with another civil society organization, particularly called the Center for the Study of Violence and Reconciliation, to assist the department to develop a policy to address sexual abuse. Like in many other countries around the world, sexual abuse in prisons is something that people tend to know happens, but it's considered part of prison life. It's considered something we can't do anything about. It's more frequently joked about. And there are lots of sort of prejudices and stigma around it. We are working to assist the government to implement that policy. So it's around developing tools to help, for example, when inmates come into a facility, where are they housed? That's the first really important decision. Are they particularly vulnerable or not? Are they likely to pose a risk of perpetration or not? So those sorts of tools, but also training for correctional officials to help them recognize when somebody might be sexually abused. Because of the stigma, it's very unusual for people to come forward and report. So it's critical that guards are sensitive to the dynamics around it and can pick up different dynamics, different risks, different signals that inmates might be given that they're in trouble, but without saying so. So we do that work with government, and then we also work a lot with survivors.
Ce qu'on peut retenir de ce témoignage, c'est finalement le rôle vraiment important des ONG pour changer l'image des prisonniers dans la société.
En effet, elles ont un rôle vraiment fondamental pour intervenir sur les représentations des prisonniers et de la prison. Elles peuvent permettre de combattre les préjugés et aussi de favoriser une prise de conscience plus large sur les injustices. Les associations, en ce sens, elles sensibilisent aux droits des détenus à la fois à l'intérieur de l'institution et en dehors. Et l'engagement de la société civile, de ce fait, est fondamental pour changer la prison.
Oui, mais la société civile, c'est quoi ?
Alors, la société civile, c'est vrai que c'est un terme un peu fourre-tout, c'est assez vague et flou. On désigne par là un ensemble assez hétérogène d'acteurs non étatiques qui sont aussi bien des associations locales animées par des avocats, par exemple, que des organisations internationales. Mais il ne faut pas oublier aussi le rôle très important que jouent les médias, qui sont des relais majeurs auprès de l'opinion. Et on peut penser à d'autres acteurs, comme par exemple les artistes, dont le travail peut amener à changer les représentations, les regards sur les prisonniers.
D'accord, donc ce que je retiens, c'est que pour changer la prison, il faut pouvoir changer les représentations.
En effet, parce que la prison, au final, ce n'est que le bout de la chaîne. Et pour changer ce qui s'y passe, il faut d'abord changer le fonctionnement de la justice, des tribunaux, de l'institution judiciaire, et en amont aussi changer les représentations dans la société de ce qu'est le juste, l'ordre, l'équitable, et pour cela, intervenir plus largement sur la manière dont les gens conçoivent ces notions. Et il y a des moments qui sont plus ou moins favorables à ces questionnements-là, et notamment les moments de transition politique qui permettent de questionner le rôle de l'État, la définition de la démocratie, et plus largement de la justice. Mais ce qu'on a vu dans le témoignage de Sacha Djir sur l'Afrique du Sud, c'est que ces moments de transition politique peuvent être aussi des moments d'instabilité qui amènent un sentiment d'insécurité et un recours plus large à l'incarcération. Et c'est pour ça que c'est très important d'intervenir sur l'image des prisons et des prisonniers, parce que c'est ce qui va permettre plus largement de questionner le sens de la pénalité dans la société et de réfléchir à une manière d'assurer une sécurité plus juste pour tous ses membres.